Bonsoir, ce soir aux oreilles loin du front, sur Fréquence Paris Pluriel, on bosse, on taf, on travaille, quoi, puisque je suis en compagnie de Marie-Anne Dujarrier, qui est sociologue du travail, autour de son ouvrage « Troubles dans le travail, sociologie d'une catégorie de pensée », paru aux presses universitaires de France en septembre 2021. Elle est professeure de sociologie à l'université Paris-Cité, alias PC Diderot avant un des ultimes épisodes, ce que vous avez appelé la marchandisation des universités. Et ses recherches portent sur la sociologie du travail et des organisations. Pour celles et ceux qui nous écouteraient très régulièrement, nous avons déjà réalisé une émission en sa compagnie il y a quelques années pour un de ses précédents ouvrages, Le Management désincarné, ouvrage qui avait changé ma vie. Bonsoir Marie Dujarrier et merci d'être venue aux oreilles.
Bonsoir, merci à vous.
Alors, ce nouvel ouvrage s'interroge sur qui travaille et quand. Enfin, vous avez travaillé avant le Covid. C'est bien avant cette remise en question de sens entre on réalise soudainement que ceux qui sont super essentiels à la société sont les moins payés et les moins considérés, qui est soudain ce qui est arrivé sur le devant de la scène pendant la pandémie, mais vous aviez travaillé bien avant. Et il y avait déjà, vous mettiez déjà à jour des torsions entre le sens, l'utilité du travail, la rémunération, etc. Donc peut-être qu'on peut commencer, parce que c'est vraiment tout l'enjeu de votre livre, par déplier un peu, comme vous le dites, ce mot. On l'entend partout, mais en fait, il a plein de définitions.
Oui, en effet, c'était une question que j'ai rencontrée, d'ailleurs, moi, dans ma vie de citoyenne. J'étais assez sensible au fait que les partis plutôt de gauche avaient des discours extrêmement variables sur le travail. Certains disent qu'il faut le réduire, d'autres le réenchanter, le troisième le libérer, le quatrième le détester. Alors c'était quand même très intéressant de voir que ces différents slogans politiques n'étaient pas tant que ça en confrontation sur le fond, mais en fait cibler des choses différentes avec le mot travail. Ça m'a frappé également dans ma vie scientifique, puisque j'ai une approche assez interdisciplinaire, d'observer que quand je travaille avec des gens qui sont plutôt économistes ou plutôt psy du travail ou plutôt sociologue ou encore ergonome, le mot travail recouvre des réalités empiriques extrêmement différentes, au risque du quiproquo scientifique permanent. Enfin, dans nos échanges ordinaires, voilà, je suis toujours interloquée quand j'entends « il n'y a plus de travail » ou « les gens ne veulent pas travailler ». Toutes ces expressions ordinaires dont je ne comprends pas vraiment en réalité ce qu'ils désignent. Alors, vous voyez, ces différentes questions qui ont été aussi très vives quand j'ai sorti un livre qui s'appelait « Le travail du consommateur » où on m'a dit « est-ce que tu es sûr que c'est du travail ?» m'ont amené effectivement à dire « mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on appelle travail dans la société ?» Non pas dans les livres, hein, parce que ça a été magnifiquement fait, déjà des anthologies hein, sur l'évolution du concept de travail, notamment en philosophie ou en économie politique, avec par exemple Dominique Méda ou Jacques Fresnay. Mais là, vraiment, ce qui m'intéressait, c'était plutôt qu'appelons-nous travail dans nos échanges ordinaires, dans notre société actuelle. En fait, quand on pose la question, les gens vous disent bah, c'est évident, le travail, c'est la rémunération, le travail, c'est la contrainte, voire la souffrance. Ou d'autres vous disent bah, le travail, c'est l'emploi. Voilà, on a des références comme ça assez diverses, dites avec un haussement d'épaule, hein, sur le mode bah, le travail, c'est simple, hein, c'est la souffrance, par exemple. Ah bon, mais est-ce que tout le monde souffre dans son emploi? Non, pas forcément. Et inversement, est-ce qu'on ne souffre que dans l'emploi? Non. Donc, on voit bien que si on prend tous les critères, qui sont généralement des critères subjectifs sur ce que c'est que le travail, on arrive à une forme d'aporie, hein, d'impasse, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment définir ce que c'est que le travail. Alors, ça m'a mise en recherche, vraiment, et ça a été une très très longue enquête, parce que le travail, en fait, la formule est très provocante, hein, mais le travail n'existe pas, au sens où le travail n'existe pas comme substance, comme essence, comme chose. Le travail, au fond, c'est ce que la société, à un moment donné, désigne comme travail. Pour reprendre une belle expression de Bourdieu, qu'il utilisait à propos du terme « famille », on a le même phénomène, hein, c'est une catégorie de pensée dont Pierre Bourdieu dit qu'elles sont des fictions qui existent. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas en tant que telle, personne ne peut mettre la main sur le travail, mais le travail, on le sait, est ubiquitaire dans nos échanges, tout le monde en parle, il est extrêmement réel et présent pour chacune de nous. Alors c'est vraiment une fiction qui existe, c'est-à-dire ce qu'on appelle en sociologie durkheimienne une catégorie de pensée, c'est-à-dire la manière dont dans une société, à un moment donné, on se représente le monde, on le nomme. Et quand je dis « on », c'est une représentation collective. Hein. C'est pas simplement « pour moi, le travail, ce serait ça ». Non, c'est pour nous, collectivement, le travail désigne quelque chose. Et ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est en effet que nous avions du mal à nous entendre sur ce que désigne ce mot aujourd'hui, puisqu'en effet, comme vous venez de le dire, le travail n'est pas forcément rémunérateur aujourd'hui. On peut avoir des activités, des pratiques humaines qui sont appelées travail et qui pourtant ne sont pas du tout rémunérées ou très mal rémunérées. Ne serait-ce que les tâches domestiques, mais aussi les stages ou tout ce qu'on appelle les travailleurs pauvres, hein, qui ne peuvent subsister avec ce qu'on appelle le travail du point de vue des institutions. J'ai observé bien d'autres divorces aussi entre, en effet, l'activité, l'emploi, la rémunération et surtout l'utilité sociale.
Si vous dites effectivement que c'est ce que la société en fait, ça veut dire que selon les différentes sociétés, le travail a aussi beaucoup évolué, que cette fiction qui existe n'a pas été la même dans tous les moments d'histoire. Il y a un moment où c'était clair pour tout le monde, où ça a toujours été polysémique à cause de ces croisements entre des expériences subjectives et ces représentations collectives.
Oui, alors vous avez raison, le mot travail est un mot qui a une histoire et qui d'ailleurs n'existe pas avant le XIe siècle. Il n'a pas d'équivalent dans de nombreuses sociétés non capitalistes. En fait, ce que nous apprennent les historiens et les anthropologues, c'est que le mot travail, et ce que nous disent les dictionnaires que j'ai regardés, hein, c'est que le mot travail prend des significations diverses au cours du temps et en fait un mot qui est propre au capitalisme, hein, marchand dans un premier temps, puis industriel. En effet, en France, il apparaît au XIe siècle, dans l'ancien français, donc, pour désigner la peine que l'on se donne pour faire quelque chose. Ce qu'on pourrait appeler l'activité. D'ailleurs, les dictionnaires disent activité. Donc, c'est ce qui est intéressant, je trouve, dans l'expression, c'est qu'on voit bien que c'est pas faire quelque chose. C'est la peine que ça demande. Donc, cet engagement, à la fois physique et subjectif, parfois même moral, hein, que l'on met dans une action pour qu'elle puisse se dérouler. Ce sens-là va rester presque, va très peu évoluer jusqu'au XXIe siècle, jusqu'à aujourd'hui. Et l'exemple typique, hein, c'est l'accouchement. On dit d'ailleurs, on accouche dans des salles de travail. Donc on voit que le terme est très important dans cette expression d'accouchement qui va servir un peu de métaphore à voilà, la peine que l'on se donne pour accoucher de quelque chose, on pourrait dire. Et puis à partir de la Renaissance, on va avoir de nouvelles significations sociales dans les usages ordinaires. Hein, c'est, là, je fais référence au dictionnaire. C'est le produit de cette activité, l'ouvrage, et puis aussi le gagne-pain, qui progressivement va être assimilé à l'emploi et même encore plus précisément, encore plus tardivement, au salariat quand celui-ci va devenir majoritaire dans les pays de l'hémisphère nord et la France en particulier. Alors on a vu comme ça, avec un même mot, des significations très très polysémiques, mais que j'ai essayé de regrouper en trois grands types de significations, donc l'activité, l'ouvrage, l'ouvrage qui devient utile, la notion d'utilité va prendre une importance croissante, et l'emploi rémunérateur. Et en effet, comme vous le disiez, il y a eu une époque, on pourrait dire après-guerre, qu'on peut appeler la période fordiste, où les trois significations du mot travail, les trois significations ordinaires, étaient reliées. Le travail, d'après Larousse, de cette époque-là, c'est une activité économique exercé par l'homme et qui est un facteur essentiel de la production, caractérisé par son utilité et par son coût. Donc là, on a tout, hein, activité, utilité, hein, ouvrage utile et puis emploi avec un coût et une dimension économique. Or, ce que j'observe, en effet, c'est qu'à partir des années 90, les choses se brouillent ou se troublent, hein, pour citer Judith Butler, c'est-à-dire que les significations sociales du travail vont de moins en moins associer ces différentes facettes, l'activité, la production utile, l'emploi et les revenus. Bon, à partir des observations diverses, j'ai après essayé de comprendre et de remettre ces différentes observations empiriques sous des grandes catégories. Et il me semble qu'il y a six faits sociaux principaux qui dissocient, hein, encore une fois, l'activité, les revenus et la production utile. Je vais commencer peut-être par les nouveaux modèles productifs dont on parle beaucoup, hein, et notamment celui que moi j'avais étudié qui s'appelle en bon français le crowdsourcing, c'est-à-dire la captation dans la foule par l'outil numérique de données personnelles ou de métadonnées, mais aussi de production comme des vidéos, des textes, des photos, des appréciations, hein, des likes comme on dit maintenant, ou même des évaluations littérales, etc. Autant de captations faites dans la foule via Internet qui alimentent des modèles économiques extrêmement juteux et dont on connaît hein, les principaux acteurs qui sont les multinationales, notamment des GAFAM, qui posent la question de savoir si nous travaillons lorsque, pour ne pas le citer, nous surfons sur Facebook ou lorsque nous faisons un article pour Wikipédia ou bien que ce ne soit pas profitable pour cette association, fondation, mais ou si nous postons une vidéo qui fait beaucoup de vues sur YouTube. Certains marxistes en particulier disent oui, c'est du travail puisque ça c'est profitable pour les firmes. Et puis d'autres, également marxistes paradoxalement, disent non, c'est pas profitable puisque Marx a dit il n'y a travail que si on a l'intention de travailler. De produire. Vous savez, c'est la fameuse comparaison de l'homme et de l'abeille. Alors, voilà, il y a un débat dans le champ notamment sociologique hein, de savoir si on doit ou pas parler de travail dans ce cas-là. Et on voit bien les enjeux, hein, ils sont gigantesques, parce que si on dit qu'il y a travail, alors il faudrait que cette activité de production, malgré nous, j'allais dire, hein, de données juteuses pour les firmes, soit traitée institutionnellement comme du travail. C'est exactement la même question qu'on peut se poser, par exemple, sur les robots. Quand on dit les robots nous piquent notre travail, bon, c'est une vieille ancienne, hein, depuis 200 ans, effectivement, par la mécanisation, puis la numérisation, il y a cette peur que les robots, enfin cette peur ou cet espoir, selon les points de vue, que les robots remplacent le travail humain. Alors, si un robot remplace un humain dans son activité, c'est donc que le robot travaille. Là aussi, il faut être cohérent, c'est-à-dire que si on dit qu'un robot travaille, alors il faudrait peut-être imaginer un code du travail de l'emploi des robots. Ces quelques exemples qu'on peut étendre aussi aux apories ou aux difficultés que pose le biocapitalisme signalent que dans les nouveaux modèles productifs, le numérique, le biocapitalisme, l'automatisation et notamment l'intelligence artificielle, viennent troubler la notion de travail puisqu'on voit qu'il peut y avoir de la production utile et même profitable sans humains, ou sans que ces humains-là aient le sentiment subjectif de travailler, ou au contraire qu'ils aient le sentiment de travailler, mais ça ne rentre pas dans les institutions du travail. Donc vous voyez, on a un divorce entre les différentes notions, hein, différentes significations du mot travail, au point où voilà, on ne sait pas quel est le... Est-ce que, par exemple, participer à des essais cliniques, hein, on vous fait ingérer des médicaments ou des vaccins et on voit comment votre corps sain, comme on dit, réagit par rapport à un corps qui subit une pathologie. Est-ce que voilà, participer à des essais cliniques, c'est du travail? Aujourd'hui, c'est rémunéré, mais ça n'est pas rémunéré sous forme de salaire, ça ne rentre pas du tout, ça ne dépend pas du tout du code du travail. Donc c'est rémunéré, mais c'est pas du travail, hein, du point de vue des institutions. Au fond, hein, ces nouvelles productives soulèvent des questions, mais ils ne sont pas les seuls. On retrouve aussi, des choses qu'avaient dit très clairement les féministes depuis les années 70, lorsqu'elles proposaient d'étendre le concept de travail, ou plutôt la catégorie de pensée de travail, aux tâches domestiques. Vous vous rappelez sans doute hein, cette revendication pour qu'on parle de travail domestique. D'une certaine manière, cette revendication a porté ses fruits, puisque dans certains milieux sociaux et académiques, on parle en effet de travail domestique. Mais il faut reconnaître que cette conquête n'a pas été jusqu'aux institutions, puisque les tâches domestiques ne sont pas dans le code du travail, n'est-ce pas? Et en fait, les tâches domestiques et cette expression de travail domestique a ouvert la voie à d'autres questionnements qui sont, on pourrait dire, similaires. C'est-à-dire, pour tout ce que nous faisons en dehors de l'emploi, qui demande de la peine, donc qui est, on va dire, une activité, hein, au sens courant du terme, qui produit des choses extrêmement utiles, et qui pourtant, en effet, du point de vue institutionnel, ne sont pas reconnues comme du travail. Alors, il y a évidemment toutes les activités de reproduction, hein, faire des enfants, on a vu que c'était le sens initial du mot travail, mais aujourd'hui, notre société hésite à qualifier ça de travail. On peut prendre un arrêt de travail, paradoxalement, quand on fait un enfant. Est-ce que toutes les activités dites aujourd'hui de care, hein, simplement prendre soin des autres, des personnes les plus dépendantes en particulier, est-ce que même Yann Tronto proposait de parler de care écologique, est-ce que lorsque on agit, et parfois cela demande de la peine pour tenter de participer à son petit niveau, à des tâches d'écologie, ne serait-ce que trier ses poubelles ou renoncer à des transports très confortables pour réduire sa consommation de carburant, est-ce que ça, qui est productif, utile, et qui demande de la peine, c'est du travail. Bof. Aujourd'hui, ça n'est pas vraiment reconnu comme ça, mais pourtant, on peut avoir le sentiment de travailler lorsqu'on le fait. On peut dire, voilà, quel boulot. Est-ce que ce qu'on appelle, ce que Rosa Bonheur, un groupe de chercheurs, a très bien décrit, ce qu'on peut appeler avec Marianis le travail de subsistance, c'est-à-dire le fait d'avoir à survivre avec très peu de moyens, très peu de revenus, qui demande beaucoup de peine, beaucoup d'efforts et qui est extrêmement utile, surtout quand il s'agit de faire vivre des enfants. Est-ce que ça, on peut l'appeler du travail, comme le proposent ces sociologues lorsqu'ils parlent de travail de subsistance? De la même manière, hein, le bénévolat pose aussi très très frontalement la question de savoir si les bénévoles travaillent, parce que dans le champ du bénévolat, on parle de travail bénévole, mais évidemment, par définition, le bénévolat s'oppose au travail rémunéré et à l'emploi. Ces quelques exemples qu'on pourrait, je pourrais en rajouter d'autres, hein, l'autoproduction, le travail psychique et aussi évidemment ce que certains ou certaines appellent le travail animal, sont autant de cas dans lesquels il y a des activités qui demandent de la peine, qui sont très utiles, voire même profitables, et qui pourtant ne relèvent pas des institutions dites du travail. Elles ne sont pas comptées dans les statistiques du travail, elles ne dépendent pas de droits du travail, elles ne sont pas protégées. Toutes ces activités n'ont pas d'horaire maximum, de rémunération minimale, de reconnaissance des accidents du travail, etc. Donc on voit bien, elles ne sont pas comptées non plus du point de vue de la richesse. Hein. On sait à quel point si on se mettait à compter le travail domestique, le PIB augmenterait significativement. Et de la même manière que pour les robots, il n'y a pas de code du travail, de l'emploi des animaux ou même des plantes. Hein. Imaginons que l'emploi que nous faisons des forêts comme des poulets rentre, et ce n'est pas une blague, hein, rentre dans un code de l'emploi, hein, un code du travail en fait, végétal ou animal, qui serait évidemment pas le même que celui des humains. Et en fait, on voit donc qu'il y a depuis longtemps, et ça se maintient, et c'est évidemment important, et nous faisons plein d'activités qui demandent la peine, qui sont utiles, et qui pourtant sont hors emploi. Et puis à l'inverse, troisième fait social, on sait que dans notre société, il y a beaucoup d'emplois bien rémunérés ou pas, enfin en tout cas rémunérés, qui sont appelés travail, qui sont qualifiés comme ça par le droit, par les statistiques, les politiques publiques, nationales et internationales, et qui pourtant, du point de vue de celles et ceux qui l'exercent, cet emploi, disent qu'il est totalement inutile, voire nocif ou écocide. Alors là, ça pose d'autres types de tensions, vous voyez, là aussi il y a débat social sur savoir ce qu'on appelle le travail. Si dans mon emploi, qui pourtant est appelé un travail de manière dans le champ social et même de manière juridique, moi j'ai le sentiment de ne pas travailler, est-ce que je travaille? Quand une infirmière dans un EHPAD vous dit « c'est pas du travail ce qu'on fait là », il faut le prendre au sérieux, c'est-à-dire que ça veut dire que pour elle qui dit ça, il y a travail que si ce qu'elle fait a une vraie utilité sociale. Pourtant, celle qui dit ça, elle a un emploi rémunéré. Mais la question se pose à une échelle bien plus vertigineuse aujourd'hui, lorsque les employés, les salariés, sont missionnés pour déployer des tâches qui participent, de près ou de loin, à la destruction de notre subsistance collective. Alors là, effectivement, moi j'ai rencontré des salariés qui vous disent « Est-ce que je travaille quand je participe à polluer la planète et donc à barrer totalement l'avenir de mes enfants ?» Est-ce que je suis vraiment en train de travailler ou est-ce que je suis en train de faire l'inverse du travail? Est-ce que quand on produit des choses destructives, est-ce que produire de la destruction, c'est du travail? On voit bien là que le mot travail subit une torsion extrêmement forte lorsqu'on voit ce conflit entre la dénomination institutionnelle, hein, le travail c'est l'emploi, et le vécu subjectif. Évidemment, avec l'Anthropocène, on voit que le mot travail est complètement troublé. On ne peut plus dire, si vous voulez, que le travail, c'est ce qui assure notre subsistance. C'est devenu un peu compliqué de dire ça.
24 heures dans la vie de Sonia. Sonia se lève précipitamment pour calmer les pleurs de son plus jeune fils. C'est dans le travail en ce moment. Elle le cajole, le nourrit, le change, lui parle. C'est doux malgré le manque de sommeil et l'effort qu'il faut faire pour le surmonter. Tout en repensant à son rêve qui la travaille encore, elle prépare le petit déjeuner. Puis elle réveille son mari qui doit aller travailler et déposer le plus jeune à la crèche. Elle aide son autre fils à s'habiller et à faire son cartable. Elle le conduit à l'école et lui dit de bien travailler, en lui déposant un baiser sur le front. De retour au domicile, elle passe l'aspirateur, change les draps, lance une lessive, range la cuisine, ramasse les jouets. Vivement qu'elle puisse retravailler pour avoir les moyens d'employer quelqu'un pour faire tout cela, pense-t-elle. Elle se rend ensuite à Pôle emploi pour montrer qu'elle cherche bien du travail. Son interlocutrice lui rappelle qu'elle doit écrire, relancer, téléphoner, tenir ses pages internet à jour, faire du réseau, se former. Elle lui suggère de rester motivée et en forme. Elle s'y applique. Elle travaille sur ses émotions et elle a pris un abonnement dans un club de sport pour travailler ses abdos. Elle peste en constatant qu'il lui faut utiliser une caisse prétendument automatique. C'est à elle de faire le boulot, pense-t-elle. En rentrant, elle se met à son cours d'informatique en vue de valider un diplôme. Elle y travaille avec assiduité. Elle s'interrompt pour répondre à une voisine qui lui demande de l'aide pour monter son caddie. Puis elle décide de poster sur Wikipédia un article qu'elle a mis 3 mois à rédiger sur le roman noir, sa passion. Elle a fait du bon travail, pense-t-elle avec fierté. Elle va faire un petit tour sur Facebook, like des vidéos et articles de ses amis et dépose sur sa page des photos de ses enfants, si mignons. Elle profite d'être devant l'ordinateur pour acheter un billet de train pour les vacances sur un site commercial qui bombarde sa rétine d'offres alléchantes et bien ciblées. Les algorithmes travaillent bien ce matin, pense-t-elle. Après avoir saisi moult informations et codes, prouvé qu'elle n'était pas un robot, elle imprime son billet et la publicité qui y est attachée. Elle avale rapidement une aile de poulet, non sans penser au documentaire qu'elle a vu la veille, montrant ce qui est exigé de l'animal pour finir dans son assiette à un prix dérisoire. Il est temps de rejoindre le local de l'association, dans lequel elle donne bénévolement des cours de français à des adolescents en difficulté scolaire. Retour à la maison, via la crèche et l'école avec les 2 enfants. Il n'y a plus qu'à leur faire faire leurs devoirs à la maison, puis trier et descendre les ordures, étendre le linge, appeler ses parents, préparer le dîner et enfin écouter son mari qui, de retour du travail, va lui raconter sa journée. Car son mari travaille, lui. Il n'est pas obligé de rougir lorsque des amis lui demandent « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Et pourtant, ce soir, il lui dit, tout en consultant ses courriels professionnels, « J'ai passé ma journée dans des réunions absurdes, je n'ai pas eu le temps de travailler. »
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel dans les oreilles loin du front, et c'était Working Woman Blues de Valérie June, car ce soir aux oreilles, on taffe. On déconstruit en effet le mot « travail » avec la sociologue Marianne Dujarrier. Je me suis entretenue avec elle au sujet de son dernier ouvrage « Troubles dans le travail, sociologie d'une catégorie de pensée » paru aux éditions des Presses universitaires de France. Vous n'aurez d'ailleurs pas manqué de reconnaître la douce voix d'Audrey qui nous lisait le premier passage de ce livre qui illustre de façon évidente que ce mot est partout, dans notre quotidien. Marianne Dujarrier a pourtant commencé à nous montrer, dans la première partie de l'extrait qu'on vous diffuse ce soir, à quel point ce mot de travail est polysémique. Il signifie en fait beaucoup de choses très, très différentes. Elle est alors revenue sur certains des faits sociaux qu'elle a observés, qui témoignent de ces torsions, de ces divorces même, auxquels ce mot fait face. Les nouveaux modèles économiques qui remettent en débat ce qu'est le travail ou, dans la lignée des féministes, l'existence dans nos sociétés d'activités pénibles, mais utiles, tout en étant hors emploi. Elle poursuit dans l'extrait qui suit et nous expose les autres faits sociaux qu'elle a observés qui continuent de visibiliser les usages équivoques du mot « travail ». Et à la lumière de ces derniers, Marianne Dujarrier se propose de nous équiper intellectuellement pour penser, repenser le travail.
Dans une société capitaliste qui est donc par définition construite sur l'accumulation légitime de capital, eh bien en effet vous avez des capitalistes qui accumulent de l'argent, du capital, sans rien faire. C'est le propre de la rémunération du capital qui interroge, puisqu'on sait qu'elle est devenue, la progression de la rémunération du capital est bien plus forte que celle du travail hein, ces 30 dernières années. Donc on peut très bien obtenir des revenus sans rien faire lorsqu'on est un capitaliste, même un petit capitaliste. Hein, si on a un capital immobilier et qu'on en profite pour avoir des revenus sans rien faire en louant hein, ce bien immobilier, par exemple, bah voilà. Il est possible dans notre société d'avoir des revenus sans rien faire et parfois des revenus extravagants. Et puis notre société aussi, et c'est heureux sans doute, a une très forte opère des redistributions d'argent par l'impôt ou plus massivement encore par la sécurité sociale, qui nous amène aussi à observer que nous sommes dans une société où déjà les revenus peuvent être dissociés d'une activité productive actuelle. Quand je suis étudiante, je bénéficie d'une bourse ou que je suis maman et j'ai des allocations familiales, on voit bien que c'est des revenus déliés d'une activité pénible et utile ou profitable. Donc on voit aussi cette dissociation entre activité et revenu qui amène d'ailleurs certains à aller encore plus loin en proposant un revenu universel. Voilà, on a aussi évidemment les parachutes dorés, qui sont paradoxalement des revenus très importants donnés à des cadres ou des dirigeants pour qu'ils arrêtent de travailler, entre guillemets, hein, pour qu'ils arrêtent leur activité productive dans une organisation. Donc voilà, c'est quelques exemples qui montrent que dans notre société, il y a beaucoup de cas, outre les arrêts de travail, outre la placardisation, etc., dans lesquels nous obtenons des revenus sans que ces revenus soient liés à une activité qui demande de la peine et qui produit des choses utiles. Nous vivons dans une société qui a fait de l'emploi la norme, une norme absolument incontournable. Hein. Il faut avoir un emploi pour gagner sa vie, comme on dit, mais aussi pour avoir une identité sociale, pour pouvoir répondre à cette fameuse question si terrorisante lorsqu'on ne peut pas y répondre, qui est « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» L'emploi, c'est la norme absolue et pourtant, on le sait, depuis presque un demi-siècle, il n'y a pas d'emploi pour tout le monde. Ce qui génère des pratiques sociales qui prennent une ampleur croissante, qui est tout ce que nous devons faire au seuil du marché de cet emploi, mais aussi ce que on peut appeler le marketing de soi, c'est-à-dire savoir se mettre en valeur, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans la vie quotidienne, mais aussi faire attention à son look, à son aspect. Voilà. C'est aussi évidemment tous les stagiaires qui sont aux portes hein, de l'emploi et qui occupent le plus souvent les emplois auxquels ils aspirent, paradoxalement. Toutes celles et ceux qui, dans l'agriculture ou ailleurs, sont des entrepreneurs au bord de la faillite, voire en faillite, hein, qui gagnent très très peu, on pourrait dire des entrepreneurs pauvres, il y en a malheureusement beaucoup. Voilà, c'est ces questions qui posent toutes celles et ceux qui, face à une norme salariale qui ne peut être réalisée, sont contraints de réaliser des activités productives utiles sans être rémunérés, sans statut d'emploi et sans qu'ils soient reconnus comme des travailleurs. Et puis, dernier cas, un dernier fait social qui vient troubler, c'est-à-dire mettre en débat ce que nous appelons travail, c'est tout ce qui, plus classiquement, dans le cadre de l'emploi salarié ou dans l'emploi d'auto-entrepreneur, fait débat. À quel moment est-ce que je travaille? À partir de quand exactement? Dans le rapport social entre un employeur et un employé, il est facile de comprendre que l'employeur a intérêt à compter le moins possible. Par exemple, est-ce que le temps que l'on met à se changer lorsqu'on a un uniforme doit être compté comme temps de travail? L'employeur a tendance à dire non, l'employé a revendiqué qu'il le soit. C'est logique, l'employé ou ses représentants syndicaux. Donc on a une guérilla comme ça permanente, non seulement sur les temps à compter comme travail, c'est-à-dire comme temps de travail et donc de rémunération, est-ce que les temps de transport doivent être payés? Est-ce que les heures sup, toutes les heures sup, chaque minute sup doit être payée? On sait qu'aujourd'hui, près de 14% ne le sont pas. Et puis, j'étais très sensible aussi au fait que dans leur emploi, de nombreux salariés disent « En plus de mon travail, je remplis des tableaux de bord ou je fais des réunions inutiles ». Vous savez, tout ce développement que j'ai décrit dans d'autres livres, hein, de la bureaucratie néo-managériale, que les gens, que les salariés vivent comme une tâche en plus de leur travail. Je reprends cette expression qui signifie que pour eux, ça n'est pas du travail. Et pourtant, ce sont des tâches réalisées dans le temps de l'emploi. Donc, c'est payé comme du travail. Donc, le désaccord sur ce qui est travail ou pas peut se renverser. Voilà, je ne vais pas détailler non plus, mais il existe de nombreuses tâches à la fois physique, hein, par exemple, s'assurer que aller chez le kiné après son temps d'emploi pour faire des exercices qui nous permettent de rester employables, ou des tâches morales ou même émotionnelles qui ne se voient pas à l'œil nu, qui sont indispensables pour garder son poste, mais qui ne sont pas toujours comptées, hein, comme du travail par les employeurs. Donc nous assistons au cœur même de ce qui pourtant pourrait être évidemment du travail, qui est le salariat, et bien même là, il y a un désaccord quand on regarde un peu en détail sur ce que nous appelons travail. Donc voilà, en fait, ce que j'essaye de décrire, c'est que dans notre société, il existe de très très nombreuses pratiques sociales qui impliquent des dizaines de millions de gens. En fait, chacun de nous, au cours de notre existence dans la société, où savoir si on travaille ou pas est en fait débattu. Débattu entre nous, mais même en nous. Parfois, on ne sait pas si on est en train de travailler. Demandez à un stagiaire s'il travaille, vous verrez qu'il ne saura pas bien vous répondre de la même manière que, sans doute, un auto-entrepreneur qui, après la tâche pour laquelle il est payé, soigne son outil de travail. Là, il va vous dire, une fois que j'ai fini mes heures payées, eh bien, je m'occupe de mon outil de travail. Est-ce qu'il travaille quand il fait ça ? Lui-même, il n'est pas sûr.
Il y a deux questions qui me saisissent et qui m'ont saisi en lisant votre livre. La première, c'est pourquoi maintenant ? Pourquoi ça apparaît si fortement maintenant, si c'est le cas ? Et vous avez cité Marx avec deux versions différentes, donc peut-être que ce n'est pas le cas, mais pourquoi maintenant ? Et j'allais dire, à qui profite le crime ? C'est les tournants des années 90 ? Est-ce que les deux questions sont liées ?
Oui, alors le tournant des années 90 ont été marqués par deux faits sociaux majeurs. Évidemment, le développement des politiques néolibérales, qui entre autres incite chacun à être entrepreneur de soi, etc. Bon, et puis qui maintient un taux de chômage quand même assez élevé. Et d'autre part, l'apparition de nouvelles technologies et de leurs usages sociaux qui ont parfois donné lieu à des nouveaux modèles économiques, en fait. Et pour répondre à votre question sur les usages sociaux de la polysémie, on pourrait dire, c'est-à-dire quels sont ces usages stratégiques, même pourrait-on dire, hein, d'employer un mot dont on ne sait plus très bien ce qu'il veut dire, et en plus de lui accoler une valeur. Dans ma recherche, en fait, je suis évidemment, comme beaucoup de collègues, tombée hein, sur le constat que historiquement, à partir notamment du XVIIe siècle, l'État et les employeurs vont attribuer au mot travail une morale. C'est-à-dire qu'à ce mot, dont on ne sait pourtant pas très bien ce qu'il désigne, on va attribuer une valeur, et une seule. Ce qui est très étonnant, puisque la polysémie du mot, en fait, indiquerait plutôt qu'il y a beaucoup de valeurs embarquées derrière lui. Si on se restreint, je dirais, aux trois grandes significations ordinaires du mot, activité, production utile, et emploi rémunéré. On voit bien qu'il y a des valeurs très différentes. Hein. L'activité, on sait, surtout que ça a été très théorisé hein, depuis une cinquantaine d'années, on sait que dans l'activité, nous jouons pas moins que le sens de l'action et notre santé. Dans l'activité, on construit sa santé. Donc, en fait, il y a des valeurs extrêmement importantes, on pourrait dire intrinsèques, hein, des questions de vie ou de mort, dans le fait de pouvoir déployer une activité dans son action. C'est-à-dire que la peine que l'on se donne pour faire quelque chose ait du sens et participe de la construction de notre santé. Valeur tellement forte que on verra que les usages stratégiques consistent à dire le travail, c'est une grande valeur. D'ailleurs, on va vous offrir du travail. Vous allez pouvoir déployer une activité merveilleuse. Vous allez pouvoir développer une subjectivation et une socialisation. Pardon, je jargonne un peu, mais c'est les deux termes importants qui sont compris dans l'activité. Hein. Faire quelque chose avec d'autres et pouvoir développer son intelligence, ses compétences, etc. Vous avez des employeurs qui vont, au nom du travail, de la valeur travail, vous dire « je vous offre une activité ». Mais je ne vais quand même pas vous la payer, puisque je vous offre déjà cette activité que vous valorisez. Donc là, on voit qu'il y a une conversion de l'intérêt intrinsèque de l'activité en travail gratuit, comme dirait Maud Simonet. Alors ça se pratique évidemment beaucoup auprès des publics dits éloignés de l'emploi. Hein. Voilà, on est sympa, on donne à des handicapés, des SDF, etc., une activité productive à faire qui leur donne un sentiment d'utilité, de rencontrer des gens, etc., mais à des tarifs complètement bradés. Donc on voit un premier usage stratégique. On utilise la valeur d'activité pour dégrader finalement les autres valeurs que sont quoi? Ben, la production utile, hein, quand on dit le travail est une valeur, ben oui, parce que ça produit quelque chose d'utile, qui assure la subsistance des humains sur Terre, c'est quand même très important. C'est vrai que c'est une valeur extrêmement importante, qui est d'ailleurs, alors là, pour le coup, complètement à repenser intégralement hein, face aux menaces écologiques que nous connaissons et que nous commençons à accepter de penser maintenant. Qu'est-ce que c'est qu'une production utile aujourd'hui? Alors, on peut voir effectivement que si, au nom de la valeur travail, ici comprise comme production utile, on peut obtenir que certains et certaines fassent à peu près n'importe quoi avec des statuts dégradés au nom de l'utilité de cette activité. On sait par exemple que dans le champ du bénévolat, les bénévoles, enfin des associations, des bénévoles comme des salariés d'associations acceptent des conditions d'emploi inexistantes ou dégradées, des salaires inférieurs par exemple. Et même parfois, comme ils disent eux-mêmes, se défoncent ou s'éclatent hein, dans le travail associatif, au point parfois de faire des burn-out, parce que ce qu'ils font est utile. On le voit aussi beaucoup, évidemment, dans le travail sanitaire et social, éducatif, hein, où des gens valorisent l'utilité sociale de ce qu'ils font, au point parfois d'accepter de dégrader les autres valeurs, entre guillemets, qui sont comprises dans le mot travail, hein, qui sont les valeurs intrinsèques de l'activité et la valeur économique. Et puis, vous l'aurez compris, on peut jouer avec le mot aussi sur justement la valeur économique qui permet, au nom de la création d'emplois ou au nom de l'autonomie financière, de faire accepter à des femmes et des hommes d'avoir des activités très dégradées et même parfois très dégradantes et nocives pour leur santé, de leur faire faire y compris des choses qu'ils ou elles réprouvent. Et là, on trouve tous les gens qui disent « moi, quand je fais ça, je ne travaille pas parce que c'est nocif ou c'est inutile », au nom de l'emploi et de la rémunération. Donc, ce qui me semble important de retenir, c'est que tous les discours sur la valeur travail me semblent nécessairement soit confus, soit plus gravement, forcément manipulatoires, puisqu'on voit bien que derrière le mot travail, notre société met des significations très diverses qui charrient des valeurs très très différentes, très hétérogènes et souvent en conflit.
Qui aujourd'hui essaye de s'en, ou réussit peut-être à s'en libérer? Est-ce qu'il y a est-ce que arrêter de travailler, c'est une solution du coup? Est-ce que le travail gratuit c'en est une autre? Est-ce que ce revenu universel peut être une façon de tordre aussi? Est-ce que aujourd'hui il y en a qui le remettent en cause et qui le font à bon escient, peut-être même à leur insu, j'allais dire, sans même savoir qu'ils déconstruisent tout ça?
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est effectivement de regarder comment aujourd'hui nous pensons à la fois le travail, ce qu'on appelle travail, et son futur. Hein, à l'occasion du centenaire de l'OIT, il y a eu beaucoup de publications sur le future of work, le futur du travail. Hein, c'est une expression maintenant qui regroupe plein de rapports, plein de livres, etc. Alors évidemment, je me suis intéressée, de quoi parle-t-on quand on parle du futur du travail? Et là, on peut voir que l'on soit du côté des dominants, si je puis dire, pour faire des grandes catégories, c'est-à-dire les grandes institutions type OCDE, État, think tank, évidemment syndicats d'employeurs, etc. Quand ils parlent du travail, en général, ils parlent de l'emploi. C'est vraiment ça, on a fait des études empiriques assez précises. Donc ils parlent d'emploi. Quand ils parlent du travail, qui vont être plutôt du côté de l'activité, qu'elle soit matérielle ou psychique, vont évidemment moins citer l'emploi que l'activité qu'elle demande. On a donc des propositions diverses sur la table, si je peux dire, hein, concernant l'avenir du travail. Certains disent qu'il faut arrêter de travailler, d'autres qu'il faut brûler le mot, d'autres qu'il faut dénoncer le travail gratuit, d'autres qu'il faut sortir des institutions du travail. Toutes ces propositions sont évidemment très intéressantes et elles me laissent en même temps très perplexe parce que, au fond, à chaque fois, je me demande de quoi il est question. Quand on dit, par exemple, il faut arrêter de travailler, ben, je ne sais pas, moi, s'il faut arrêter de travailler parce qu'au fond, moi, il y a des choses que j'aime bien faire. Je dis moi, hein, c'est une façon de rendre les choses subjectives, mais on comprend bien que comme l'activité est faire des choses est plutôt du côté du désir, hein, l'être humain est plutôt actif, pas à n'importe quelle condition, mais il y a un plaisir à fabriquer des choses utiles avec d'autres. Alors, est-ce qu'il faut absolument arrêter de faire ça? Donc, ou est-ce qu'il faut, dans l'expression « arrêter de travailler », ça voudrait simplement dire « sortir du salariat », comme le disait par exemple Paul Lafargue déjà à son époque. Vous voyez, ou quand on a des propositions du type il faut appeler travail gratuit, comme je l'ai fait moi-même à propos du travail du consommateur, mais comme les féministes l'ont fait à propos du travail domestique, ou comme par exemple Maud Simonet propose de le faire plus largement dans le secteur du workfare et des associations. Une fois qu'on a dit travail gratuit, c'est une façon très politique de effectivement faire reconnaître qu'il y a des gens qui se donnent de la peine pour faire des choses utiles hors emploi. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce que on veut dire qu'il faudrait salarier tous ces gens-là? Ça n'a pas forcément de sens. Donc, au fond, il me semble que plutôt que de savoir que faire pour la suite, moi, ce que je propose, c'est de déplier les sens du mot. C'est-à-dire de prendre au sérieux que ce mot est polysémique. Ça, tout le monde s'accorde pour le dire, mais au fond, une fois qu'on s'est dit c'est polysémique, nous n'en faisons pas grand-chose. Moi, je propose de dire allons au bout. Allons au bout, c'est-à-dire déplions les différentes significations du mot pour préciser de quoi nous parlons lorsque nous disons il n'y a plus de travail, ou le travail c'est la santé, ou le travail c'est l'horreur. Voilà. Déplions le mot. Et par exemple, pour faire face notamment aux questions écologiques, mais aussi sociales et même existentielles, pour parler du futur, entre guillemets, du travail, plutôt que de parler comme ça, dire qu'est-ce qu'il faudrait produire ou détruire aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que l'utilité aujourd'hui? Je pense qu'il est urgent de récupérer ce mot que les économistes nous ont chippé et de revenir vraiment à la notion de l'utilité, c'est-à-dire qu'est-ce qui est utile de produire ou de détruire dans notre monde aujourd'hui, compte tenu des communs négatifs dont nous héritons et compte tenu des enjeux climatiques notamment et de la biodiversité. Parlons de production, d'utilité, de tâches, comment on se répartit les tâches entre humains, entre hommes et femmes, entre le sud et le nord, mais aussi comment se répartissent les tâches entre robots et humains, entre animaux, robots et humains. Comment s'assurer que l'organisation de ces tâches permette aux humains, et même peut-être aux autres vivants, d'avoir une activité, j'allais dire heureuse. Je ne sais pas si une plante peut avoir une activité heureuse, mais en tout cas une activité qui respecte les possibilités réelles de ces vivants. En gros, de ne pas les exploiter à mort, si vous voulez. Comment est-ce qu'on compte la richesse? Parce que quand on parle travail, on pense aussi richesse, surtout si on est dans la lignée d'Adam Smith. Et d'ailleurs, le PIB parle de la richesse en fonction du travail qui permet de produire des marchandises. Voilà, c'est un travail rémunéré. Eh bien, on pourrait délier la notion de richesse, enfin, en tout cas, réfléchir, comme l'ont déjà fait des gens comme Gadret, Jeanne Catrice ou Méda, sur repenser la manière dont on compte la richesse. De la même manière, qu'est-ce qu'il faut rémunérer? Penser la rémunération en enlevant le mot travail, en sortant du mot travail, en disant qu'est-ce qu'on doit rémunérer dans notre société aujourd'hui, si on reste dans une logique de rémunération. Est-ce que l'autoproduction peut être reconnue institutionnellement? Quelles sont les solidarités qu'on veut mettre en place face au risque de l'existence? Comment on pense l'emploi d'autrui, qu'ils soient des humains encore une fois ou des robots ou d'autres vivants. Quels seraient les droits de l'emploi que l'on veut déployer? Voilà, dit autrement, moi ce que je propose c'est de s'équiper intellectuellement simplement en dépliant le mot, en regardant toutes les facettes, et on voit qu'en interrogeant ce qu'on appelait travail dans ses différentes significations, on peut s'autoriser à explorer davantage de possibles, surtout au moment de réagencer ces différentes notions d'activité, de production, d'utilité, d'emploi, de droit, de solidarité.
Ce qui est problématique, c'est qu'on n'a qu'un seul mot en France qui est travail. Alors, on est pourtant une langue qui est extrêmement riche. Les autres langues ont le même travail ou il y a des langues qui ont déjà trouvé ces subtilités?
Alors là, je vous renvoie à un excellent article de Olivier Fressé qui a fait ce travail sur 13 ou 14 langues, sur effectivement comment on pourrait traduire le mot travail dans d'autres langues, y compris des langues du Sud. Pour rappel, dans le latin et même dans le grec antique, on n'avait aucun équivalent du mot travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que nous avons traduit postérieurement par travail, quand on fait dire qu'Aristote méprise le travail, ou quand on fait dire à la Bible certaines choses sur le travail, on est bien d'accord que c'est des traductions évidemment postérieures. Et en fait, quand on fait l'exercice inverse, qu'on va regarder quels sont les mots qui ont été traduits par travail, qui étaient en grec, en latin ou en hébreu, avant que le travail ne soit un mot usité dans notre langue, eh bien, on trouve plein de significations. Parfois, on a le mot action, parfois, plutôt, ça se renvoie plutôt à l'idée de métier ou de rapport social, on dirait aujourd'hui. Donc, ce qui est intéressant, c'est effectivement, oui, à votre question, avant que le mot n'existe, il y avait plein de mots qui se référaient aux différentes significations de ce que nous avons regroupé sous le mot travail. Parce que c'est précisément là, le côté problématique, c'est que ce mot regroupe sous un même chapeau des significations extrêmement hétérogènes, qui par ailleurs peuvent s'énoncer avec d'autres mots. Hein. Nous les avons, ces mots production, valeur, utilité, etc. Et en effet, dans les autres langues, alors lorsque l'équivalent du mot travail, enfin ce qui est traduit en français par travail, par exemple, work et labor, mais aussi job en anglais, hein, il y a au moins ces trois significations. En effet, à un moment, work désignait plutôt l'activité et labor plutôt l'emploi. En réalité, quand on regarde les usages courants, réels, sociaux, c'est pas si simple. Hein. On a des confusions entre les deux, y compris son dernier, pour moi la plus grande des confusions, c'est l'expression digital labor, parce que autant ça serait une expression qui serait valable pour le salariat, labor, hein, c'est plutôt le salariat, autant parler de digital labor pour ce que nous faisons dans nos pratiques numériques sans se rendre compte que nous travaillons, je trouve que le terme est un petit peu étrange, en fait. Voilà, Arbeit a une autre étymologie en allemand. Je n'ai évidemment pas développé les autres histoires des mots dans toutes les langues, ça serait une encyclopédie gigantesque. Moi, je me suis restreinte à la France, et de ce que j'ai pu voir de l'usage des mots dans les pays capitalistes, on a sensiblement les mêmes phénomènes qu'en France. Encore une fois, sur les mots notamment de work, labor et arbeit pour l'allemand.
Comment on travaille sur le travail, sur un corpus qui paraît aussi large?
Oui, un petit peu de méthodologie. En effet, c'est pas évident. Quand j'ai commencé l'enquête, bon, j'ai fait une chose très, très simple. Je me suis déjà adossée à cette idée de catégorie de pensée, qui, encore une fois, j'insiste, n'est pas un concept scientifique. C'est une catégorie de pensée, c'est des usages ordinaires. Et pour faire ça, je suis tout simplement allée consulter les dictionnaires dont la fonction est justement de rendre compte des usages ordinaires des mots. Donc ça a été extrêmement facile et pratique, on pourrait dire, un peu fastidieux et long, mais d'aller regarder tous les dictionnaires, enfin j'en ai regardé 20 depuis le 11e siècle, d'aller regarder les notices travail, travailleur, travailler, pour voir les significations sociales en fait qui étaient données du mot. C'est néanmoins, je voudrais dire une chose importante, parce que ça a été une épreuve pour moi, et je pense que c'est difficile de faire ça. En fait, remettre en question une catégorie de pensée, c'est techniquement difficile, d'abord parce que c'est difficile de penser le travail sans employer le mot, tellement ce mot-là s'impose à nous, comme dirait Durkheim, tellement c'est une catégorie de pensée sociale qui hante notre imaginaire, nos représentations, notre langue, etc. Et en fait, s'astreindre à parler de travail sans employer le mot, c'est un exercice qui est, à mon avis, extrêmement heuristique, extrêmement intéressant, mais techniquement, au début, c'est un petit peu difficile. Et puis, je voulais dire aussi que, pour des raisons politiques, c'est difficile parce que, comme on l'a dit, il existe un rapport de force sociale autour de l'usage de ce mot. Et donc, vous pouvez avoir des gens qui n'ont pas du tout envie que vous leur rappeliez que ce mot a une histoire, qu'il est contingent, qu'il est polysémique, qu'il y a des usages stratégiques de cette polysémie, etc. C'est aussi une difficulté subjective, on pourrait dire, parce que nous avons, vous et moi, comme tous les auditeurs et chacun de nous, une histoire avec le mot « travail ». Chacun, on peut même entendre des gens qui disent qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas le travail. Enfin voilà, on a même des affects liés au mot. Là aussi, regarder ce mot-là comme une fiction qui existe vient nous toucher affectivement, existentiellement, dans notre rapport au signifiant de ce mot-là. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que le mot travail, c'est un marché, enfin délimite un marché professionnel ou des marchés professionnels pour toutes celles et ceux qui se définissent comme des psychologues, médecins, statisticiens, sociologues, etc. Tous les métiers dits du travail, y compris les syndicalistes, évidemment, hein, dont on se rappelle que les syndicats portent même dans leur nom même le mot travail en leur cœur. Donc on voit bien qu'il y a des résistances à la fois techniques, politiques, subjectives et professionnelles à penser cette catégorie, à dénaturaliser, hein, le mot travail, à désessentialiser le mot de travail, à rappeler que c'est juste un accord social contingent qui exprime un état de notre société et qui pourtant s'impose à nous pour penser, et parfois pour penser malheureusement de façon peu raffinée, on pourrait dire.
Une dernière question, ces torsions et ces divorces que vous avez très bien expliqué tout à l'heure, c'est uniquement dans ce champ socio-économique. Le mot travail, il est constant dans les autres sciences.
Alors les usages scientifiques du mot sont en effet très intéressants à observer. Ils sont évidemment tardifs puisque les sciences elles-mêmes arrivent tardivement dans l'histoire de l'homme. Hein, on va dire à partir en gros de fin 17e, mais surtout 18e, 19e, 20e siècle. Et ce qui est très très frappant quand on regarde les usages du mot travail qui sont faits, c'est que presque toutes les sciences vont chercher ce mot qui existait dans le langage courant, le mettre au cœur de leur théorie, mais chacun à sa manière. C'est-à-dire que le travail va devenir un concept très important en sciences physiques, évidemment, mais aussi en économie, ça a été beaucoup commenté, mais aussi, rappelons-le, en psychanalyse, puis évidemment en sociologie, en linguistique et en anthropologie, etc. Donc, on va arriver ce mot, et même en philosophie, la philosophie n'a pas parlé de travail avant Hegel, donc vous voyez, le mot arrive très tard aussi en philosophie, comme en droit, évidemment. Ce mot va devenir central dans les différentes disciplines, mais chaque discipline va lui donner une signification conceptuelle distincte. Pire encore, au sein même d'une discipline, on peut trouver derrière le mot travail des conceptualisations complètement différentes. Je sais pas, par exemple, en philosophie, Hegel, Nietzsche et Hannah Arendt n'ont pas du tout la même définition du travail. De la même manière qu'en sociologie, on peut trouver des sociologues qui parlent d'emploi, là où d'autres vont parler plutôt d'activité, et un troisième plutôt de production. Et pire encore, on s'est aperçu que, c'est assez connu pour Marx, mais c'est vrai aussi de Freud, chez un auteur, dans l'œuvre d'un auteur, avec le même mot, work ou arbeit, en l'occurrence pour ces deux auteurs, eh bien, en fait, les significations attribuées varient au gré du développement qui est fait dans l'œuvre. Parfois, chez Marx, travail signifie l'activité et il en souligne l'importance pour la vie, pour la santé, pour le sens de l'existence. Il a des très belles pages comme ça sur l'importance de l'activité. Donc, il dit l'activité, c'est la vie, pas rien. Donc là, on voit bien que c'est le travail au sens d'activité. Et puis, à d'autres moments, il va dire il faut arrêter de travailler, il faut supprimer le travail. Là, il est évident qu'il ne parle plus de l'activité, mais plutôt du salariat, de son époque, et justement des torts qu'il cause à cette vie. Mais il emploie le même mot, ce qui d'ailleurs faisait enrager son traducteur Engels, qui disait oui, il utilise le même mot pour parler de réalité empirique, en fait, très différente. Donc, vous voyez, et Freud fait pareil. Donc on voit que entre disciplines, mais même au sein des disciplines et même chez un même auteur, on va avoir aussi une forme de polysémie derrière le mot qui tantôt désigne l'activité, tantôt désigne la production, tantôt désigne l'emploi, sans que parfois le passage d'une signification à l'autre soit elle-même signifiée, si je puis dire.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel dans les oreilles loin du front, et ce soir on vous diffusait des extraits d'un entretien avec Marianne Dujarrier au sujet de son dernier ouvrage « Troubles dans le travail, sociologie d'une catégorie de pensée » paru aux éditions des Presses universitaires de France. On espère que cela vous aura donné envie de continuer à vous équiper intellectuellement pour pouvoir explorer avec elle d'autres possibles autour de la peine, le collectif, les solidarités, l'utilité, la richesse, la rémunération. Bon travail!